Yo, bon, on va commencer Paye ta brochure avec un petit texte. Du coup, comment devenir un bon dirigeant politique en 10 leçons?
Voilà. Alors, la méthode Assimile vite la politique nous permet de publier en exclusivité quelques extraits de sa méthode éprouvée pour devenir un dirigeant politique puissant. Ceci donne des résultats efficaces pour un investissement raisonnable. Nous vous le conseillons donc.
Alors, 1. Être un humain blanc occidental, entre guillemets, de sexe mâle est une condition favorable sous nos climats. L'instruction et la culture peuvent être moyennes, l'habileté politique n'est pas liée au diplôme ni à la sagesse ou au fait d'être cultivé. On peut commencer jeune, mais la moyenne la plus courante est de 35 à 60 ans.
Il est indispensable d'avoir une structure organisationnelle stable où l'importance numérique des troupes peut être donnée importante. La durée de l'organisation est en soi un enjeu de taille.
3. Il sait faire fonctionner et utiliser les mythes sur l'origine ou l'avenir, la puissance et la valorisation. Il remplace aisément le prêtre d'antan comme intercesseur face aux puissances spirituelles. La promesse est un horizon de sens primordial. C'est un bon connaisseur de l'âme humaine et tire profit des passions tristes des humains qui préfèrent se soumettre en ayant un petit rôle plutôt que de prendre le risque de la liberté éphémère. Il sait que l'existentiel et l'identitaire sont des points clés de l'humanitude, alors il en joue à souhait.
Il s'entoure d'un cercle amical où l'affectif et la reconnaissance conforteront l'engagement des personnes proches. L'aspect tribal, entre guillemets, de l'économie familiale n'a pas de secret pour lui, même s'il affirme à dessein que la politique prime. Il s'efface pour distribuer des valorisations symboliques aux personnes dont il a besoin.
5. Il profite des forces neuves des personnes qui débutent en politique en leur montrant l'énorme besoin que l'on a d'elles. La justification doit bien sûr avoir une haute valeur morale et viser au bien de l'humanité pour compenser le sacrifice militant. Comme l'usure humaine est parfois rapide, il faut toujours de la chair fraîche. Les technocrates, eux, parlent maintenant de turnover, mais le dirigeant politique sait qu'il s'agit de tout autre chose, du merveilleux que procure l'instance symbolique collective, car le monde politique est triste et froid s'il est désenchanté.
6. Il a toujours raison. Si besoin, il met les principes en avant. Il ne reconnaît jamais qu'il a tort. Au mieux, c'est une erreur d'appréciation. En cas de désaccord sur une initiative qu'il n'a pas prise lui-même, le dirigeant ne dit pas qu'il est contre. Non, il crée une ambiance défavorable aux critiques en sous-main et n'encourage pas à y participer. À l'inverse, s'il se sent en minorité, il jouera de son aura personnelle en disant « Vous pensez ce que vous voulez ». Personnellement, je pense que cette tactique fonctionne à merveille. L'instinct grégaire vient au secours de la soumission.
7. Il fait des compromis quand c'est inévitable, c'est-à-dire quand il ne peut diriger seul, et s'empresse de dénoncer la compromission chez les autres. Mais il connaît la valeur du rapport de force avec ses pairs en politique, car la règle, c'est de se soumettre plutôt que de se démettre, comme chez les grands singes. La fin justifie les moyens est une méthode éprouvée. Autre précepte de base bien connu, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Il est ancien, mais encore très efficace. En désespoir de cause, il aura recours au sempiternel divisé pour mieux régner.
8. Avec l'âge vient le contrôle des instances. Là, il faut souvent verrouiller pour se maintenir en place et garder son pouvoir. On peut faire de multiples façons. La maîtrise des statuts, la dramatisation émotionnelle, le recours aux dangers externes pour rendre plus forte la cohésion interne, l'instrumentalisation des personnes proches donc dévouées, la mise en scène du pouvoir, etc. Évidemment, le contrôle des finances et de l'information sera acquis discrètement. Comme de bien entendu, on réclame la transparence pour les autres et on pratique l'opacité pour soi. Le meilleur moyen étant de se rendre indispensable et incontournable par sa présence active.
9. L'essentiel est de continuer, d'occuper l'espace, de marquer la situation, donc de faire parler de soi. On peut utiliser l'humour et même aller jusqu'à se plaindre ou se faire plaindre pour son dévouement à la cause. Au besoin, on se fait rassurant devant les inquiétudes des personnes que l'on instrumentalise. De ce point de vue, le dirigeant politique est un bon cadre gestionnaire. Il excelle dans les ressources humaines. La bonne personne à la bonne place, la culture maison, la valorisation de la réussite, l'évacuation des difficultés sur une victime expiatoire ou un bouc émissaire, être celui qui sait, la pratique de la convivialité bien comprise qui en fait un humain accessible malgré son pouvoir, entre guillemets, supérieur.
10. La haute idée de soi-même, c'est fondamental. Partager cela avec les autres ou leur donner un motif d'exister, de se sentir libre et utile, de vibrer pour un idéal, donne la clé du pouvoir symbolique. Partager et transmettre l'illusion sont de bonnes garanties pour que les autres se soumettent et s'en remettent à vous en politique. Face au vide du spectacle et de la marchandise, proposer du sens, c'est un excellent moyen de se réunir en politique. Allez, bonne chance ces petits loups, ayez les dents longues. L'époque est au faux semblant, n'hésitez pas, les humains sont méprisables et adorent la soumission, pourvu qu'on les caresse et qu'ils aient peur. Pour rire avant d'en mourir. C'était un petit texte « Comment devenir un bon dirigeant politique en 10 leçons » de Philippe Coutant. Et c'était écrit en juin 1996. Voilà.
Voilà, on va mettre un petit son de Jazz Mataz maintenant. « Take a look at yourself ». I'm tired of suckers always complaining about your situation cause you front. Take a look at yourself, take a look at yourself, take one big look, take a look at yourself, take a look at yourself, take a look at yourself, take one big look, take a look at yourself. Came up short, man. That's right. Yes, just one time too many. Too many. Don't try to get too friendly. Nah. I shouldn't give you any. Nah. R-E-S-P-E-C-T. You know respect. Yeah. You're messed up, son. Yep. Trying to play Mac money. Mac you went money. For self for the fast wealth. But you know what's funny? Now you're falling, crawling, crying out for reasons. Should I sympathize or let my lyrics give legions and cuts? Cause I can straighten you up. I ain't on a crusade. It's just that your game's played. But are you afraid to make moves and get really paid? You might fade, cause punk, you live for today. And most of your chances already blew away. Take a look at yourself, take a look at yourself. Take one big look, take a look at yourself. Take a look at yourself, take a look at yourself. Take one big look, take a look at yourself. Listen, forget the diss and I'm admitting I've done some wrong. Also wrote some dope songs. My man Roy, he brought the vibes along. Now I'm in there getting funky with the track. I used to drive a Cadillac, it took me there and back. Right. But seriously, Black, how you living?
How you living?
From what I can see, word to mother, you're slipping. If I were you, I'd stop this fantasy world stuff. Cause the real world's tough, you ain't equipped enough. Step back, analyze, and use your own eyes to see.
Take a look.
I can't be you, you can't be me. For your problems, yo, you can't blame no one else.
Take a look at yourself, take a look at yourself. Take one big look, take a look at yourself. Take a look at yourself, take a look at yourself. Take one big look, take a look at yourself.
I ain't running away, never kid. Yo, are you? I've been through the BS. Got scars, a few. Many. But I can't dwell in the hell that I passed through. I'm a blast through.
Yep.
And do what I gotta do. Amazing. Suckers think this rap stuff won't phase them. I'll wait then. And crash the ceilings till they cave in. Don't give in. Cause the power keeps me driven.
That's
I'll destroy the weak noise with much poison. No toys or tricks.
Nope.
So stay off my tip. And get a grip on your own. And get a life of your own. And stop waiting. For things to come to you, that's for chumps.
That's right.
I know what you ought to do.
Take a look at yourself, take a look at yourself. Take one big look, take a look at yourself. Take a look at yourself, take a look at yourself. Take one big look, take a look at yourself.
Yeah, I wanna give a big, big shout out to the Dirty Rotten Scoundrels and the Groove Home. To my man Premier. Crazy shout out to all the boroughs in New York. You know what I'm saying? As my man Roy is in full effect.
Take a look at yourself, take one big look, take a look at yourself, take a look at yourself, take a look at yourself, take one big look, take a look at yourself.
Hola, hola. Et du coup, on va continuer la lecture. Et là, je vais lire. Alors, peut-être pas en entier, peut-être. Enfin, je ne sais pas encore. C'est un peu long, mais c'est super intéressant. Et c'est une brochure qui s'appelle La tyrannie de l'absence de structure. Le texte suivant a été écrit par une activiste du mouvement de libération des femmes américain au début des années 70, semble-t-il. Ayant déjà inspiré de vastes débats dans la mouvance autonome espagnole, il a été republié pour l'actualité de son contenu dans la revue Contrapoder, numéro 3, en 1999, dans le cadre d'un dossier sur les questions d'organisation. Il est donc traduit de l'américain au castillan, puis du castillan au français, c'est-à-dire qu'il n'est sans doute pas ici au mieux de sa forme linguistique. Si quelqu'un trouve sa version originale ou une meilleure traduction, qu'il nous fascine. Voilà, alors on commence. Tout au long des années de formation du mouvement de libération des femmes, on a beaucoup plébiscité les dénommés, entre guillemets, groupes sans leadership ni structure, comme étant la principale. Sinon, l'unique forme d'organisation du mouvement. L'origine de cette idée se trouve dans la réaction naturelle à la société surstructurée dans laquelle nous sommes plongés, à l'inévitable contrôle sur nos vies qu'elle confère à certaines, et à l'élitisme constatant de la gauche et des groupes similaires parmi ceux qui sont supposés combattre cette surstructuration. Pourtant, l'idée d'absence de structure est passée du stade de saine contre-tendance à celui d'idées allant de soi. Les notions qu'elle implique sont aussi faiblement analysées que le terme est fortement utilisé, devenant une part intrinsèque et indiscutable de l'idéologie du mouvement de libération. À l'étape de gestation du mouvement, cette question avait peu d'importance. Une fois définis ses objectifs et sa méthode principale comme la prise de conscience, le groupe de conscientisation sans structure, entre guillemets, s'avérait être un excellent moyen pour atteindre le dit objectif. Le caractère détendu et informel qui le régissait était propice à la participation, aux discussions et le climat de soutien mutuel qui se créait en général permettait une meilleure perception de ce qui était personnel. Si les résultats n'étaient pas plus concrets que cette perception du personnel, cela n'avait pas une grande importance puisqu'en réalité, il n'y avait pas d'autre objectif. Il n'y avait pas d'autre objectif que celui-ci. Les problèmes ne commencèrent à surgir que lorsque les petits groupes de conscientisation épuisèrent les vertus de la conscientisation et décidèrent qu'ils voulaient faire quelque chose de plus concret. Face à cette décision, les groupes en général s'enlisèrent, parce que la plupart d'entre eux ne voulaient pas changer leur structure pendant que se modifiaient leurs tâches. Les femmes avaient pleinement accepté l'idée de l'absence de structure, entre guillemets, sans s'apercevoir des limites qu'enfermait son prolongement. On essaya d'utiliser le groupe sans structure, entre guillemets, et les discussions informelles pour des questions inadéquates, en se basant sur la croyance aveugle que toutes les autres formes d'organisation, quelles qu'elles soient, étaient oppressantes. Si le mouvement prétend s'étendre au-delà de ces étapes élémentaires de développement, il devra abandonner quelques-uns de ses préjugés sur l'organisation et la structure. Il n'y a rien de pernicieux en soi dans ces deux notions. Tous les deux peuvent être et sont fréquemment mal employés. Mais les rejeter dans leur ensemble parce que leur emploi n'est pas correct revient à nier les instruments d'un développement ultérieur. Il est ainsi nécessaire de comprendre pourquoi l'absence de structure ne marche pas. Structure formelle et informelle. À l'inverse de ce que... Pardon. À l'inverse de ce que nous voulons croire, il n'existe pas de groupe sans structure ni rien de similaire. Tout groupe de personnes qui, pour certaines raisons, s'unissent pendant un temps déterminé avec un objectif quelconque, se donnera inévitablement une forme ou une autre de structure. Celle-ci pourra être flexible et pourra varier avec le temps. Peut-être servira-t-elle à distribuer les tâches de manière équitable ou injuste, ou à distribuer le pouvoir et l'influence entre les divers membres du groupe. En tout cas, elle s'adaptera aux personnalités, facultés ou intérêts des personnes du groupe. Le simple fait d'être des individus munis de talent, de prédispositions et d'origines diverses rend ce fait inévitable. Seulement, si nous refusons de nous fréquenter ou d'interagir sur telle ou telle base, nous pourrions nous rapprocher d'un groupe sans structure, et cela n'est pas exactement la nature d'un groupe humain. Ce qui précède veut dire qu'aspirer à créer un groupe sans structure est aussi inutile et trompeur que prétendre qu'il existe des informations objectives, que les sciences sociales sont dégagées des valeurs ou qu'il existe une économie libre. Un groupe laissé faire est aussi réaliste qu'une société laissée faire. La notion de groupe sans structure se transforme en un rideau de fumée qui favorise les fortes ou celles qui peuvent établir leur hégémonie indiscutable sur les autres. Cette forme d'hégémonie peut s'établir très facilement parce que la notion d'absence de structure n'empêche pas la formation de structures informelles. Elle n'empêche que celle des structures formelles. De même, la philosophie du laisser-faire en économie n'a pas empêché les puissants d'établir un contrôle sur les salaires, les prix et la distribution des biens. Elle a juste empêché que ce soit le gouvernement qui le fasse. Ainsi, l'absence de structure féministe est en général défendue par celles qui détiennent davantage de pouvoir, qu'elles en soient ou non conscientes. Dans la mesure où la structure du groupe est informelle, les normes selon lesquelles on prend les décisions ne sont connues que de peu de personnes, et la conscience du fait qu'il existe une relation de pouvoir se limite à celles qui connaissent ces normes. Celles qui ne les connaissent pas ou qui n'ont pas été sélectionnées pour l'initiation resteront dans la confusion ou souffriront de l'impression paranoïaque qu'il se passe des choses dont elles n'ont pas pleinement conscience. Afin que toute personne ait l'opportunité de s'investir dans un groupe ou d'anticiper les activités, la structure de celui-ci devra être explicite ou non implicite. Les normes de prise de décision doivent être ouvertes et connues de toutes, ce qui n'arrivera que si elles sont formalisées. Cela ne signifie pas que la formalisation de la structure d'un groupe détruit nécessairement sa structure informelle. En général, ce n'est pas ce qui se passe. Par contre, cela empêche que la structure informelle détienne un contrôle prédominant et en même temps, cela offre de meilleurs moyens pour se préserver de gens qui seront investis sans répondre aux nécessités générales du groupe. L'absence de structure est organisationnellement impossible. On ne peut décider de former un groupe avec ou sans structure. À partir de maintenant, le terme « absence de structure » sera employé en référence à ces groupes qui n'ont pas été structurés consciemment sous telle ou telle forme. À l'inverse, nous ferons référence aux groupes structurés en parlant de ceux qui l'ont fait consciemment. Un groupe structuré a toujours une structure informelle ou cachée. C'est cette structure informelle, tout particulièrement dans les groupes non structurés, qui crée les bases du développement des élites. La nature de l'élitisme. Le terme « élitaire » fait référence à un petit groupe de gens qui domine un autre groupe plus grand, dont il fait partie, sans normalement avoir une responsabilité directe sur ce plus grand groupe, et qui agit fréquemment sans son consentement ou sa connaissance. Une personne devient élitiste quand elle fait partie ou défend la domination de ce petit groupe, indépendamment du fait qu'elle soit ou non connue des autres. La notoriété n'est pas un équivalent de l'élitisme. Les élites les plus insidieuses sont habituellement composées de gens que le grand public ne connaît pas. Les élites intelligentes sont, en général, assez sagaces pour ne pas se faire connaître. Elles savent que si on les connaît, on les observe, et qu'alors, le masque qui cache leur pouvoir cesse d'être préservé. Le fait que les élites soient informelles ne veut pas dire qu'elles sont invisibles. Dans la réunion d'un groupe quelconque, n'importe qui peut, en ayant l'œil avisé et l'oreille attentive, se rendre compte de ce qui influe sur qui. Les membres d'un groupe qui ont de bonnes relations entre eux se fréquenteront plus fréquemment que d'autres. Ils s'écoutent plus attentivement et s'interrompent moins. Ils répètent les points de vue et les opinions des autres et, en cas de conflit, ils cèdent plus amicalement. De même, ils tendent à ignorer, voire à lutter d'arrache-pied contre les exclus dont l'assentiment n'est pas nécessaire pour prendre une décision. Et pourtant, les exclus doivent maintenir de bonnes relations avec les inclus. Évidemment, les lignes de démarcation ne sont pas aussi clairement tracées que ce que j'affirme ici. Dans l'interaction naissent des nuances. Les élites ne sont pas des groupes de conspiration. Il est rare qu'un petit groupe se réunisse et essaye délibérément de s'accaparer un plus grand groupe à ses fins. Les élites, non, ne sont rien de plus et rien de moins que des groupes d'amis qui, accidentellement, participent à la même activité politique, bien que, d'un autre côté, il y aura probablement une activité politique indépendamment du maintien ou non de leur amitié. La coïncidence de ces deux faits est ce qui génère une élite dans un groupe déterminé, et aussi ce qui rend si difficile son anéantissement. Ces groupes d'amis fonctionnent comme des réseaux de communication en marge de tous les canaux que le groupe a pu établir avec eux. Et s'il n'existe pas de canaux, ils fonctionnent comme le seul réseau de communication. Parce que ces gens sont amis, parce qu'en général, ils partagent les mêmes valeurs et conceptions politiques, parce qu'ils se parlent dans des circonstances de la vie quotidienne, parce qu'ils se consultent quand ils doivent prendre des petites décisions pour leur vie. Les gens qui participent à ces réseaux ont plus de pouvoir que ceux qui ne participent pas. Il est rare qu'un groupe n'établisse aucun réseau informel de communication entre les amis et qui se lie en son sein. On va faire une petite pause musicale pour cette longue brochure, mais hyper intéressante. Et du coup, on va écouter un son de Serna. Sur la terre. C'est ? Dis-moi qu'on s'aime.
Yeah. Dis-moi qu'on s'aime, pas que de la merde. Soyons certains, soyons sérieux ou surtout pas. Est-ce qu'on se connaît? À trop s'aimer pour ce qu'on n'est pas. On croit à se quitter pour ce qu'on est. Tu parles, moi je peux pas m'en aller évidence. Non, tirer le rideau au premier fantôme qui déboule. Premier mot sale, à la première promesse trahie. Fais ta valise. Faut du temps pour que nos langues se délient. N'en faut beaucoup moins pour se dédire. Mais va savoir jusqu'où ça vaut la peine encore. On sait qu'un jour y'a plus de magie. Alors bien sûr qu'on prend des risques. On peut se tromper et la routine nous pantonner. C'est que la route tourne, c'est tout pourri ou magnifique. C'est tout ou rien, on peut se faire mal. Ça c'est facile, et saboter l'amour morné. On peut se salir, bah ouais bien sûr qu'on est fragile. Capricieux, insatiable, merde on se ressemble. Yeah, yeah, yeah. Pauvre mec, salaud, sale traître. Dis-moi qu'on s'aime. Salope emmerdeuse. Dis-moi qu'on s'aime. On parle mal, on s'insulte. Dis juste qu'on sait. On a usé les mensonges et les promesses. Raclure en foi et c'est dit. Dis-moi qu'on s'aime. Sale petite connasse. Bordel de merde. On dirait trop le daron quand je gueule. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour pas être seul? On a grandi sur terrain miné, sur des terres arides, éduqués à mort dans la tradition de la trahison et la traite d'essence. La gueule de bois avant l'ivresse, sur nos berceaux se penchés, des curtons et des profs. On en a bouffé de leurs sermons, de leurs sermis, leurs tromperies, leurs petits arrangements. Ça on en a plein la cervelle. On a découvert que le foyer c'était violence à foison. Le lit conjugal scène de crime, où l'amour clame c'est sans un cri. Sous l'édredon, on ne nous a rien épargné. On porte ce leg, on est héritier du renoncement. Partie de déperdu d'avance, à te passer le goût de l'intrigue, l'envie de l'étreinte, ou juste à t'en rendre impuissant. Suivant dans le game du porno, bizutage, des niaisés au bordel, des panneaux 4x3. Merde, bien trop sensible pour rien sentir, quand il portait héros sans terre. Pauvre mec, salaud, sale traître. Dis-moi qu'on s'aime. Salope emmerdeuse. Dis-moi qu'on s'aime. On parle mal, on s'insulte. Dis juste qu'on sait. On a usé et les mensonges et les promesses. Raclure en foi et c'est dit. Dis-moi qu'on s'aime. Sale petite connasse. Bordel de merde. On dirait trop le daron quand je gueule. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour pas être seul? Alors bien sûr, sexe avant l'heure, porno addict ou caisse stérile du prince charmant.
Alors bien sûr la séduction, chère en pâture, la solitude des femmes battues. Alors bien sûr la peur d'être seule, jusqu'au mensonge, la tromperie ou le sabotage. Bien entendu que ça nous habite et nous accable, c'est dans nos têtes et dans nos chairs. Mais on regarde, on lâche pas, on tente, on se plante des fois et on se défend. Irrésolu de peur d'être réduit à partager des résidus de vie. Ce qu'on vend comme seule issue, elle vaut la peine. Ouais, même nos sales histoires, je te jure. Puisqu'on s'y frotte quand même, c'est peut-être qu'elle vaut la peine. C'est peut-être qu'elle vaut la guerre.
Alors, on va reprendre du coup la tyrannie d'absence de structure. Certains groupes, selon leur taille, peuvent avoir plus d'un réseau de communication informel. En outre, ces derniers peuvent s'entremêler. Quand il existe juste un réseau de ce type, il se transforme en élite du groupe sans structure. Indépendamment de la volonté ou non de ses membres d'être élitistes, si, d'un autre côté, il est le seul réseau existant dans un groupe structuré, il peut ou ne peut pas correspondre à son élite selon les compositions et la nature du groupe formel. S'il existe deux réseaux d'amis ou plus, ils se font parfois concurrence pour gagner le pouvoir dans le groupe, créant ainsi des divisions. Il peut aussi arriver que l'une des fractions abandonne délibérément la compétition en laissant une autre être l'élite du groupe. Dans un groupe structuré, en général, deux réseaux d'amis ou plus coexistent et se font concurrence pour gagner le pouvoir formel. On pourrait considérer que c'est la situation la plus saine, puisque les membres restants peuvent jouer les arbitres entre les deux groupes en compétition pour le pouvoir, et de cette façon poser des exigences déterminées à celles avec qui ils s'allient temporairement. Le caractère inévitable élitaire et exclusif des réseaux de communication informelle entre amis n'est pas une particularité du mouvement féministe, ni un phénomène nouveau pour les femmes. Ce type de relation informelle a servi des siècles durant à exclure la participation des femmes des groupes intégrés dont elles faisaient partie. Dans cette profession ou organisation, ces réseaux ont créé une mentalité de groupe fermé, à l'image des liens de camarades de classe, et ont empêché les femmes, quelques-unes entre parenthèses, ainsi que certains hommes isolés, d'accéder de façon égalitaire aux sources de pouvoir ou à la reconnaissance sociale. Une bonne partie des efforts du mouvement féministe dans le passé s'est dirigée vers la formalisation des structures de décision et des processus de sélection avec l'objectif de faciliter l'attaque directe contre les mécanismes d'exclusion des femmes, mais tout cela n'a pas eu lieu au sein même du mouvement féministe parce qu'on partait inconsciemment du principe qu'il n'y avait que des femmes en théorie égale d'une même classe. Entre parenthèses. Comme nous le savons bien, ces efforts n'ont pas empêché la persistance de la discrimination entre les femmes, bien qu'au moins celle-ci soit devenue plus difficile. Étant donné que les groupes du mouvement n'ont pas pris de décisions concrètes quant à qui doit exercer le pouvoir en leur sein, les critères suivis diffèrent d'un bout à l'autre du pays. Dans la première étape du mouvement, par exemple, le mariage était requis en général pour pouvoir participer à l'élite informelle. C'est-à-dire qu'en accord avec les enseignements traditionnels, les mariées restent fondamentalement entre elles, considérant que les célibataires en tant qu'amis intimes sont un danger excessif. Dans plusieurs villes, ce critère fut nuancé en incluant dans l'élite uniquement les épouses d'hommes de la nouvelle gauche. Cette norme-là prend en compte quelque chose de plus que la simple tradition. En effet, les hommes de la nouvelle gauche, en général, avaient accès à des ressources dont le mouvement avait besoin et qu'ils ne pouvaient obtenir que par leur biais. Le mouvement a changé avec le temps, et le mariage a cessé d'être un critère universel pour être une réelle participation. D'autres normes ont été adoptées pour n'ouvrir la porte de l'élite qu'aux femmes qui avaient des caractéristiques matérielles et personnelles déterminées. En général, celles-ci sont être originaires des classes moyennes, malgré toute la rhétorique existante sur les relations avec la classe prolétaire, être mariée ou pas, mais vivre avec quelques-unes, être ou se prétendre lesbienne, avoir entre 20 et 30 ans, avoir étudié à l'université ou avoir un moins au moins un certain niveau d'éducation, être marginal, mais pas trop, avoir une posture politique, ou être reconnu comme baba cool, avoir une personnalité d'une certaine manière féminine, avec des caractéristiques telles que être agréable, s'habiller de manière appropriée, etc. Il existe également des caractéristiques déterminées qui presque inévitablement définiront une personne marginale avec qui il ne faut pas tisser de lien. Par exemple, être trop âgé, travailler 8 heures par jour, ou encore plus avoir une intense dévouement professionnel, ne pas être agréable et être explicitement célibataire, c'est-à-dire n'avoir d'activité ni hétéro ni homosexuelle. Nous pourrions ajouter d'autres critères de sélection, mais ils seraient tous en rapport d'une manière ou d'une autre avec ceux énumérés ci-dessus. Les prérequis typiques pour faire partie des élites informelles du mouvement et, ainsi, exercer une certaine forme de pouvoir sont en rapport avec la classe sociale, la personnalité et le temps libre. Ils n'incluent pas la compétence, la consécration au féminisme, le talent ou la contribution potentielle au mouvement. Ceux-là sont les critères employés pour établir une amitié. Ceux-ci sont ceux que chaque mouvement ou organisation doit adopter s'il veut avoir une certaine efficacité politique. Les normes de participation peuvent varier d'un groupe à l'autre, mais les voies d'intégration à l'élite informelle, si l'on répond aux critères établis, sont souvent très semblables. La seule différence de fond réside dans le fait d'être dans le groupe depuis le début ou de s'intégrer une fois le groupe formé. Si l'on devient membre d'un groupe dès le début, il est important qu'un grand nombre d'amis l'intègrent au même moment. Si, à l'inverse, on ne connaît bien aucune des membres, il faut alors se lier d'amitié avec un groupe de gens « bien » entre guillemets, et fixer les normes basiques d'interaction pour créer quelques structures informelles. Une fois créées, les normes informelles, celles-ci se maintiennent aidées pour cela du recrutement de nouvelles personnes qui s'ajustent. On intègre une élite d'une manière similaire à celle dont on s'engage dans une confrérie. Si quelqu'un est considéré comme prometteuse, elle est entraînée par les membres de la structure informelle et, selon les cas, initiée ou laissée de côté. Si la confrérie n'a pas assez de conscience politique pour débuter consciemment le processus, celui-ci peut se dérouler de la même manière que l'adhésion à n'importe quel club privé. En premier lieu, une protectrice est nécessaire, c'est-à-dire qu'il faut trouver un membre de l'élite qui jouit de respect en son sein et cultiver activement son amitié. Il est très probable qu'à l'avenir, elle t'introduise dans les groupes d'initiés.
Alors, toutes ces procédures prennent du temps, à tel point que si l'on travaille 8 heures ou si l'on a quelque obligation similaire, il est en général impossible d'arriver à faire partie de l'élite. Simplement parce qu'on n'a pas le temps d'assister à toutes les réunions et de cultiver les relations personnelles nécessaires pour être entendu dans la prise de décision. Voilà pourquoi les structures formelles pour les prises de décision sont une aubaine pour les personnes chargées de travail. Le fait de pouvoir compter sur des procédés fixes de prise de décision garantit, jusqu'à un certain point, la participation de toutes et chacune. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, cette brochure est sur un ordinateur. Et c'est où ? Du coup, pour tourner la page, on appuie sur un bouton. On cherche la bonne page. Voilà. Bien que cette dissection du processus de formation d'une élite dans les petits groupes ait été exposée dans une perspective critique, elle ne part pas du principe que les structures informelles sont inévitablement mauvaises. Simplement, elles sont inévitables. Tous les groupes créent des structures informelles comme conséquence des normes d'interaction entre les membres du groupe. Ces structures informelles peuvent être très utiles. Mais seuls les groupes, entre guillemets, sans structure, sont totalement régis par elles. Quand les élites informelles se conjuguent avec le mythe de l'absence de structure, il est impensable de mettre des bâtons dans les rouages du pouvoir. Celui-ci devient arbitraire. Ce qui a été constaté jusqu'ici comporte deux conséquences potentiellement négatives dont nous devons être conscientes. La première est que la structure informelle gardera une grande similitude avec une confrérie tant qu'on écoutera quelqu'un parce qu'il nous plaît bien et non parce qu'il le dit des choses significatives. Dans la mesure où le mouvement ne développe pas une activité extérieure, ce qui précède n'a pas une grande importance, mais son évolution ne doit pas s'arrêter à cette étape préliminaire. Il devra nécessairement modifier cette tendance. La seconde conséquence négative se trouve dans le fait que les structures informelles n'obligent pas les personnes qui l'intègrent à répondre face au groupe en général. Le pouvoir qu'elles exercent ne leur a pas été confié et donc ne peut pas leur être arraché. Leur influence ne se base pas sur ce qu'elles font pour le groupe et donc elles ne peuvent être directement influencées par celui-ci. Il ne faut pas nécessairement déduire de ce qui précède que les structures informelles donnent lieu à un comportement irresponsable face au groupe, puisque les personnes qui souhaitent maintenir leur influence sur le groupe essaieront en général de répondre à ces attentes. Mais le fait est que le groupe ne peut pas exiger cette responsabilité, il dépend des intérêts de l'élite. Alors, le système des stars. La notion d'absence de structure a créé le système des stars. Nous vivons dans une société qui attend des groupes politiques qu'ils prennent des décisions et désignent des personnes déterminées pour les exposer au public en général. La presse, à l'instar du public, ne sait pas écouter sérieusement les femmes en tant que femmes. Elle veut savoir ce que pense le groupe. À partir de là, il existe trois techniques pour connaître l'opinion de vastes secteurs. Le vote et le référendum, le sondage et l'allocution de porte-parole dans les meetings. Le mouvement de libération de la femme n'a utilisé aucune de ces techniques pour communiquer avec le public. Ni le mouvement dans son ensemble, ni la majorité des groupes qui le composent n'ont concrétisé une façon de connaître ou de faire connaître leur position sur différents thèmes. Pourtant, le public est conditionné à ce qu'il existe des porte-parole. S'il est clair que le mouvement n'a pas explicitement désigné de porte-parole, il a tout de même poussé plusieurs femmes qui ont attiré l'attention du public pour différentes raisons. Normalement, ces femmes ne représentent ni un groupe déterminé, ni l'état d'une opinion. Elles le savent et le disent en général, mais étant donné qu'il n'existe pas de porte-parole du mouvement, elles se retrouvent, indépendamment de leur volonté et indépendamment de leur acceptation, ou non par le mouvement, à assumer le rôle de porte-parole. Ceci est l'une des causes principales du ressentiment qu'on éprouve très fréquemment envers ces femmes, que l'on désigne comme les stars. Étant donné que les femmes du mouvement ne les ont pas désignées pour exposer leur point de vue, celles-ci se sentent offensées quand la presse résume ce qu'elles le font. Pardon. Dans la mesure où le mouvement ne désigne pas ses propres porte-parole, ces femmes se voient entraînées par la presse et le public à assumer ce rôle indépendamment de leurs propres désirs. Les conséquences négatives de ce qui précède sont variées, aussi bien pour le mouvement que pour les femmes appelées stars. Premièrement, parce que le mouvement, en ne les ayant pas désignés comme porte-parole, n'est pas apte à révoquer leur mandat. La presse qui les a installés dans ce rôle est la seule qui peut choisir de leur prêter attention ou pas. Celle-ci continuera à chercher des stars pour qu'elles jouent le rôle de porte-parole, dans la mesure où il n'existe pas d'alternatives officielles auxquelles recourir quand on est à la recherche de déclarations représentatives du mouvement. Ainsi, le mouvement manquera de contrôle sur ses porte-parole en continuant à croire qu'il ne doit pas en avoir. Deuxièmement, les femmes qui se retrouvent dans cette situation sont fréquemment l'objet de critiques virulentes de la part de leurs sœurs, attitude positive dans l'absolu pour le mouvement, mais aussi douloureusement destructrice pour les femmes affectées. Ces critiques conduisent uniquement à ce que ces femmes abandonnent le mouvement, souvent profondément offensées, ou à ce qu'elles cessent de se sentir responsables face à leurs sœurs. Peut-être maintiennent-elles une forme de loyauté diffuse envers le mouvement, mais elles cessent d'être affectées par les pressions des autres femmes du mouvement. On ne peut se sentir responsable envers des gens qui sont la cause d'une telle souffrance sans avoir quelque chose de masochiste. Et en général, ces femmes sont trop fortes pour se soumettre à ces pressions personnelles. Ainsi, la réaction au système des stars, entre guillemets, encourage de fait le même type d'irresponsabilité individualiste que le mouvement condamne. Le mouvement, en punissant une femme pour son comportement de star, perd chacune des formes de contrôle qu'elle aurait pu exercer sur elle, qui se sent alors libre de commettre tous les péchés individualistes dont on l'a accusé.
L'impuissance politique. Les groupes sans structure peuvent être très efficaces pour aider les femmes à parler de leur propre vie, mais ne sont pas aussi efficaces dans la poursuite d'une activité politique. Ils se fatiguent quand les gens qui les composent ne font rien d'autre que de parler. étant aussi dépourvu de structure que les groupes de conscientisation qui les composent, le mouvement n'est pas plus efficace face à des tâches concrètes que les mêmes groupes isolés. La structure informelle qui le caractérise permet rarement une cohésion suffisante et est trop profondément enracinée dans ses membres pour lui permettre d'atteindre une véritable incidence sociale. Ainsi, le mouvement génère beaucoup d'activités et peu de résultats. Malheureusement, les conséquences de ce problème ne sont pas aussi anodines que ses résultats, le mouvement devenant sa propre victime. Certains groupes, quand ils sont pas très grands et quand ils travaillent à une petite échelle, centrent leurs activités sur des projets locaux. Cependant, cette option restreint l'activité du mouvement à un niveau local et le coupe d'une incidence régionale ou nationale. Ainsi, ces groupes qui ont l'objectif d'avoir un fonctionnement efficace en restent finalement au stade d'un groupe informel d'amis, ce qui exclut beaucoup d'autres femmes, dans la mesure où la seule façon accessible de participer au mouvement passe par les petits groupes. Les femmes qui n'ont pas l'esprit grégaire se trouvent notamment désavantagées. Et dans la mesure où la principale façon de mener une activité organisée se limite au groupe d'amis, l'élitisme reste finalement institutionnalisé. Dans les groupes qui ne trouvent pas de projet local auquel se dédier, la seule raison d'exister se réduit à rester unis. Quand un groupe n'a pas d'activité concrète, et la conscientisation en est bien une, les femmes qui l'intègrent dépensent leur énergie dans le contrôle du reste du groupe, ce qui n'a pas tant la conséquence du désir pernicieux de contrôler les autres, bien que ce soit le cas parfois, mais le produit de l'incapacité à mieux canaliser ses facultés. Les personnes qui disposent de temps et qui doivent justifier pourquoi elles se regroupent dédient leurs efforts au contrôle de leur environnement et passent leur temps à critiquer des personnalités des autres membres du groupe. Les luttes internes et les jeux de pouvoir s'imposent. Mais quand un groupe mène à bien quelque forme d'activité, les gens apprennent à s'entendre avec les autres et à éluder les antipathies personnelles en faveur d'un objectif plus grand. La nécessité de remodeler les personnes pour qu'elles atteignent l'image qu'on en a d'elles trouve ses propres limites. La crise des groupes de conscientisation laisse les gens sans but et le manque de structure les laisse sans point de référence. Dans cette situation, les femmes du mouvement se replient sur elles-mêmes et leurs sœurs ou cherchent d'autres alternatives pour agir, bien qu'elles soient peu accessibles. Certaines femmes s'occupent de leurs affaires, entre guillemets, ce qui peut délivrer une explosion de créativité individuelle dont le mouvement bénéficiera en grande partie, bien que cette alternative ne marche pas pour la majorité et ne soit évidemment pas propice à un esprit d'effort collectif. D'autres abandonnent le mouvement car elles ne veulent pas développer un projet individuel et ne trouvent pas non plus la manière d'intégrer ou d'initier un projet collectif qui les intéresse. Beaucoup d'autres se dirigent vers des organisations politiques qui leur offrent le type de structure et d'activité extérieure qu'elles n'ont pas trouvé dans le mouvement de libération. Ces organisations politiques trouvent là une source de recrutement de nouvelles affiliées et n'ont pas besoin d'infiltrer le mouvement, bien que cette option ne reste pas exclue. Puisque le désir d'une activité politique cohérente générée chez les femmes par leur participation au mouvement suffit à leur donner la volonté d'entrer dans une autre organisation, quand le mouvement n'offre pas de piste à leur énergie et à leur projet. Les femmes qui adhèrent à d'autres organisations politiques tout en restant dans le mouvement de libération des femmes ou celles qui intègrent le mouvement alors qu'elles militent dans d'autres organisations politiques deviennent à leur tour de nouvelles structures informelles. Ces cercles d'amis se fondent davantage sur leurs activités politiques communes non féministes, mais elles se comportent de manière très similaire à celles qui sont évoquées plus haut. Partageant les mêmes valeurs, idées et conceptions politiques, elles deviennent ainsi des élites informelles, sans structure claire ou formalisée, sans responsabilité devant le groupe, agissant de droit propre, que ce soit ou non son intention. Dans les groupes du mouvement, les nouvelles élites informelles sont fréquemment considérées comme une menace par les anciennes et cette impression est tout à fait fondée. Ces nouvelles élites politiquement ligotées se contentent rarement de n'être que des confréries comme de fait l'étaient les anciennes et veulent propager leurs idées politiques et féministes. Attitude par ailleurs absolument normale, bien que ses implications n'aient pas été pleinement analysées par le mouvement féministe. Les anciennes élites sont rarement disposées à exposer ouvertement leurs différences, car cela reviendrait à dévoiler la structure informelle du groupe. Beaucoup de ces élites se sont cachées derrière le drapeau de l'anti-élitisme et de l'absence de structure. Dans l'optique de contrer efficacement la compétence d'une nouvelle structure informelle, il leur faudrait proposer publiquement des alternatives qui pourraient être porteuses de conséquences risquées. Les seules manières pour elles de maintenir leur pouvoir, la plus facile est de rationaliser l'exclusion de l'autre structure informelle en les accusant de rouges, de réformistes, de lesbiennes. L'autre est de structurer le groupe de manière à ce que la structure de pouvoir initiale puisse rester institutionnalisée. Mais cela n'est pas toujours possible. Ça l'est si les anciennes élites informelles ont une cohésion suffisante et si elles ont déjà, dans une large mesure, accaparé le pouvoir. Si la cohésion de la structure informelle a montré qu'elle fonctionnait, on ne la modifie pas en substance, bien qu'alors l'institutionnalisation de la structure de pouvoir soit propice à sa remise en cause. Par contre, les groupes qui ont le plus besoin d'une structure sont souvent les plus incapables de la créer. Leurs structures informelles ne sont pas adaptées, mais leur adhésion à l'idéologie de l'absence de structure les rend réfractaires à tout changement de technique. Moins un groupe est structuré, plus il se cramponne à l'idéologie de l'absence de structure et plus il peut être facilement récupéré par un groupe de camarades politiques. Étant donné que le mouvement dans son ensemble est aussi peu structuré que la majorité des groupes qui le composent, il est alors susceptible autant que d'être directement influencé, bien qu'alors les phénomènes se manifestent de façon différente. Il arrive fréquemment que ce soit les organisations féministes structurées qui fournissent les directives de dimension nationale aux activités féministes, directives qui se sont déterminées par les priorités qui régissent ces organisations. Ainsi les groupes de Noé et NOE et VEAL et quelques collectifs de femmes de gauche sont les seules organisations capables de mettre sur pied une campagne nationale. Les innombrables groupes non structurés du mouvement de libération peuvent choisir de soutenir ou non ces campagnes nationales, mais ne sont pas aptes à mettre sur pied les leurs, continuant ainsi à laisser leurs membres grossir les troupes des organisations structurées. Les groupes qui se disent non structurés n'ont aucun moyen de bénéficier de vastes ressources du mouvement pour défendre leurs priorités et ne peuvent même pas compter sur une méthode pour décider de ces priorités.
Moins un mouvement est structuré, moins il a de contrôle sur ses processus d'expansion et sur les actions politiques dans lesquelles il s'engage, ce qui ne veut pas dire que ses idées ne se diffusent pas. S'il existe un certain intérêt de la part des médias et si les conditions sont réunies, les idées du mouvement pourraient avoir une plus vaste diffusion. Cela n'implique pas forcément qu'elles soient mises en pratique, mais qu'au moins elles soient objet de discussion. Dans la mesure où l'idéal féministe peut être porté par la pratique, on peut bien sûr agir, mais si sa réalisation exige une force politique coordonnée, nous devrons nous organiser différemment. L'organisation en structure informelle a ses limites. Elle est politiquement inefficace, ainsi qu'excluante et discriminatoire pour les femmes qui ne sont pas ou ne peuvent pas se lier à des cercles d'amis. Celles qui ne peuvent s'intégrer aux organisations existantes à cause de leur classe, de leur race, de leur métier, de leur éducation, de leur état physique, civil, de leur maternité, de leur personnalité, etc., se sentent inévitablement découragées de s'investir. Celles qui, au contraire, s'intègrent développent un intérêt caché pour le maintien des choses telles qu'elles sont. Les intérêts cachés des groupes informels transparaîtront un jour à travers les structures informelles existantes. Et le mouvement n'aura aucun moyen de déterminer les personnes qui doivent exercer le pouvoir en son sein. Si le mouvement continue à éluder délibérément la responsabilité de désigner les personnes qui exercent le pouvoir, il continuera à être dépourvu de moyens pour l'abolir. De fait, son attitude se réduit à abdiquer le droit d'exiger que ces personnes qui de fait l'exercent en soient responsables. Ainsi, si le mouvement s'engage à diluer le pouvoir au maximum parce qu'il sait qu'il ne peut exiger aucune responsabilité des personnes qui l'exercent, il empêchera qu'un groupe ou qu'une personne le domine totalement. Mais il garantira en même temps son inefficacité politique maximale. Il faut trouver une solution intermédiaire entre les structures de domination et l'inefficacité. Ces problèmes sont en train de se figer dans un mouvement qui change de nature. La conscientisation comme fonction principale du mouvement de libération des femmes commence à être absolue. La libération des femmes est devenue un thème quotidien grâce à l'intense propagande des médias ces deux dernières années et aussi aux nombreux livres et articles qui circulent actuellement. Ces thèmes sont discutés et des groupes de discussion naissent sans que leurs membres n'aient aucune connexion explicite avec le mouvement. Le mouvement doit abolir ses priorités, structurer ses objectifs et continuer ses campagnes de manière coordonnée. Et pour ce faire, il doit s'organiser à échelle locale, régionale et nationale. Principe pour une structuration démocratique. Une fois que le mouvement aura cessé de s'accrocher à l'idéologie de l'absence de structure, il aura la possibilité de développer les formes d'organisation qui seront davantage en accord avec son fonctionnement. Ce qui ne veut pas dire que nous devions rejoindre l'extrême inverse et imiter aveuglément les formes traditionnelles d'organisation, mais nous ne devons pas non plus toutes les rejeter avec le même aveuglement. Certaines des techniques traditionnelles seront utiles, bien qu'imparfaites. D'autres nous donneront une idée de ce que nous devons ou ne devons pas faire pour atteindre des objectifs déterminés avec un coût minimum pour les personnes qui composent le mouvement. Par-dessus tout, nous devrons essayer différentes formes de structuration et développer différentes techniques à utiliser dans différentes situations. Le système de tirage au sort est l'une des idées qui sont nées dans le mouvement. Il n'est pas applicable à toutes les situations, bien qu'il soit utile dans quelques-unes. Il faudrait plus d'idées pour développer une structure. Mais avant de commencer toute expérimentation intelligente, nous devons accepter l'idée qu'il n'y a rien de pernicieux qui soit inhérent à la structure elle-même. Il n'y a rien de pernicieux que sa présence excessive. Pendant que nous débutons ce processus d'essai-erreur, nous pouvons garder en tête certains principes qui sont fondamentaux pour toute structuration qui aspire à être à la fois démocratique et politiquement efficace. Ces principes sont 1. La délégation par des méthodes démocratiques de formes spécifiques d'autorité à des personnes concrètes et pour des tâches délimitées. Permettre que certaines personnes assument des travaux ou des tâches par défaut ne veut pas dire que celles-ci ne seront pas réalisées sérieusement. Si une personne est sélectionnée pour accomplir une tâche, de préférence après qu'elle ait exprimé son intérêt et sa volonté de la mener à bien, elle prend un engagement qui ne peut être facilement ignoré. 2. Exiger des personnes à qui une autorité a été déléguée qu'elles soient responsables devant celles qui l'ont élue. De cette manière, un groupe garde un contrôle sur les personnes qui se trouvent en position d'autorité. Des individus isolés exercent un pouvoir, mais c'est le groupe qui a le dernier mot sur la façon dont ils doivent l'exercer. 3. La distribution de l'autorité au plus grand nombre de personnes raisonnablement possible, ce qui empêche que ne se crée un monopole du pouvoir et exige des personnes qui se trouvent à des postes d'autorité qu'elles en consultent beaucoup d'autres dans leur exercice de cette autorité. Cela permet également à beaucoup de gens d'acquérir une responsabilité sur des tâches spécifiques et ainsi de se développer en différentes facettes. 4. Rotation des postes entre différentes personnes. Désigner une personne à un poste parce qu'elle suscite la sympathie quand elle s'y trouve ou gêner son travail parce qu'elle n'en suscite pas ne profite à long terme ni au groupe ni à la personne en question. La capacité, l'intérêt et la responsabilité doivent être les critères qui comptent dans une telle sélection. En ce sens, il faut favoriser des opportunités pour que les gens acquièrent de nouvelles capacités. Mais la meilleure façon d'y arriver passe par un entre guillemets, programme d'apprentissage et non par la méthode qui consiste à entre guillemets, se jeter à l'eau pour apprendre à nager. Assumer une responsabilité que l'on ne maîtrise pas est démoralisant et, à l'inverse, se trouver dans une liste noire et pour agir correctement n'est pas très encourageant pour développer ses facultés. Tout au long de l'histoire, on a empêché les femmes d'agir de manière compétente et il n'est pas nécessaire que le mouvement reproduise le même processus. 5. Diffusion de l'information à tout le monde le plus fréquemment possible. L'information est pouvoir. L'accès à l'information augmente le pouvoir individuel. Plus on en sait sur le fonctionnement de quelque chose et plus on a d'informations sur ce qui se passe, plus l'efficacité politique des membres du groupe est grande. 6. Accès égalitaire à toutes les ressources dont le groupe a besoin, ce qui n'est pas toujours faisable. Bien qu'une membre qui entretient un monopole sur une ressource nécessaire, un labo photo, une photocopieuse à laquelle elle a accès par le biais de son mari, etc., doivent se proposer, elle peut conditionner l'accès à cette ressource de manière excessive. Les connaissances des différentes membres peuvent être équitablement accessibles si ces dernières sont disposées à les apprendre aux autres, à échanger du matériel, etc. Si ces principes sont appliqués, il est garanti que, quelles que soient les structures développées par les différents groupes du mouvement, celles-ci restent contrôlées et répondent face au groupe. L'ensemble des personnes qui se trouvent à des postes d'autorité sera vaste, flexible, ouvert et temporaire. Elles ne pourront pas institutionnaliser leur pouvoir parce que les décisions seront prises par l'ensemble du groupe en dernière instance. Celui-ci aura la possibilité de décider des personnes qui exercent l'autorité en son sein.
Du coup, c'était une brochure qui s'appelle La tyrannie d'absence de structure. Et elle date. Alors, elle date exactement. Je vais remonter pour voir. Ouais, alors ça a été écrit. Hop, je galère avec le. C'est galère avec l'ordi pour remonter, on est désolé. Du coup, c'était la tyrannie de l'absence de structure qui a été écrit déjà au début des années 70 et qui a été repris ensuite plusieurs fois en 99. Et c'est sur le mouvement de la libération de la femme et ça a été republié du coup plusieurs fois dans différents mouvements de lutte. Et du coup, c'est assez intéressant. Et maintenant, on va faire une pause musicale avant de reprendre de la lecture. Voilà.
On va faire une petite pause avec un morceau de Sisyphe sur l'album sur L'Oiseau du Malheur. On va mettre Mon éternelle chanson.
Voici encore l'oiseau du malheur. Voici encore.
Voici encore mon éternelle chanson. Je parle toujours de la même chose. Évidemment, rien n'a changé à part la déco de la cage. Oui, ça ne va pas s'arranger. La vie s'en va, le manque revient. L'esprit ne trouve rien à manger. Je brûle, je prie pour la vengeance. Mais ça ne me donne pas de réponse et ça ne me soigne pas les plaies. Je me casse les dents dans l'impuissance et mon cœur saigne. Allez, pleure, allez, plaindre la laideur du quotidien. Sous le poids de la défaite, l'allégresse du non-vivant. Avec le charme de la défonce, l'art des foules, le calme du feu, car ça défoule. La débris, les bagarres, le froid et mon de feuilles. Je suis défait, ma joie défunte chez les défauts qui vont te plaire. La noceur du fond de mer, du plomb de l'herbe, c'est si bon. Quand j'écris de sombres vers, je rappe toujours comme je gerbe. Et le message, c'est mon de merde. Et le message, c'est mon de merde. Rien de nouveau, une garde à vue de plus, j'ai toujours la haine des bourreaux. Je me suis encore fait larguer, comme d'hab, je suis au bout du rouleau. Je me bourre la gueule, je fume un peu, et comme je bats, je suis trop relou. Ils ont tué Clément Méric. J'aimerais juste brûler des mairies, j'en m'embranle de vos reliques. Le fascisme se reloue, ça se répète, c'est l'histoire de la raison, sa dialectique. Mais au fond, tout le monde s'en tape, ils vont juste continuer comme ça sans rien sentir. Et l'horreur, c'est la santé. Donc moi, je vais continuer à chanter, même si le jeu ne vaut pas la chandelle. Je suis le malheureux par qui arrive le scandale. J'ai le bagage d'un sale cheleux, les chaussettes dans les sandales, c'est mon éternelle chanson. Je crache mes tripes dans le sandard de l'existence. Je fuis rencard dans ces cris danses où se mêlent colère, tristesse, dans la violence, de mon dégoût, de l'évidence. Chaque nuit je vois la mort en costard, je suis encore là. Un chalet sur mon sort, je me morfonds dans l'ennui, à trop de confort, comme dit mon pote. Et dans les bras de Morphée, l'angoisse m'emporte. Je vais là où s'entassent mes peurs, l'empire m'ampute. Je me sabote, l'apathie est la pire des putes. Bande de salopes, la vie n'est plus, c'est pas ma faute. Ici-bas, tu vas morfler, y'a que l'au-delà de la morphine. Quand chaque geste est une corvée, que les néants te bouffent les tripes. Quand le stress vient t'enfoncer, que tu demandes quand ça finit, qu'est-ce que tu vas chercher à construire. J'ai du mal à me concentrer, mais je nique toujours la bienséance. Je n'ai toujours rien à proposer, à part une bouteille d'essence. Je ne suis pas mieux que n'importe qui, mais je m'accroche à ma différence. Faut bien tenir le coup. Mais non, je ne suis pas libéré ni déconstruit. Je suis sidéré, oui, démoli. La mélodie me dit d'aimer, le vide et les me terrorise. Entre la conscience d'être en raté, le fait d'être toujours en retard, vu l'absence qui rend taré tous ces blocages qui nous séparent. Moi s'enferme dans les remparts de la cura, je suis trop en perte. De quoi veux-tu que je parle à part? La pourriture est mon pétard, les rôles m'emmerdent. Je crève sous le poids de l'empathie, l'orage se passe de commentaires. Je n'ai que la rage ainsi qu'un peu de romantisme. Alors je crache ce qui me traumatise. Je rappe pour me vider la tête du néant, d'une vie délabrée. Tu voulais que je trie des palettes. Tiens, ta vitrine a pris des pavés. Si les années me minent ma chaîne, ceci ma chair, mon crime ma paix, mon crime et ma guerre. Nique les gens, je suis terrassé, on a violé mon inconscient.
ils veulent que je fasse un truc léger. Il n'y a plus rien d'innocent, je n'irai pas chanter la joie excepté celle de la vengeance. Encore une fois j'en arrive là, ma révolte, mon impuissance, ça tourne en rond comme un balletti. Je finis toujours dans sale état, vos gueules de con coupe l'appétit. Je rêve d'extase et de barricade, mais je patauge dans les marécages. J'ai du grabuge de mon amygdale. Je n'ai pas été en Grèce, ni à la salle. Je n'ai jamais jeté de cocktail, je suis fatigué, le monde m'oppresse. Je n'ai pas d'idée, je me répète, je nique à la salle et à l'idée. Obama qu'on m'a lisé, je crache ma haine, ça me libère. Même pas vraiment, je suis paniqué, c'est de la misère de qualité. Rap de loser, je trouve ça stylé, mais quand même des fois ça me saoule. Et mon âme seule voit des lames sales, je me sens nul, je n'arrive pas à faire autre chose. Je théorise mes angoisses et je cultive cette herbe rose. Français en permanent, je sais pas comment vivre ma vie, mais tellement peur de mourir. Une pensée pour qu'il la pille, comme le temps se dilapide, comme ça grouille le petit nazi, comme l'amour est bien précaire, en cavale comme BBG. Tant que la vie sera ailleurs, je n'aurai rien d'autre à dire. Tant que régnera l'horreur, je décortiquerai des cadavres. Tant que l'ennui guidera mes pas, tant qu'il fera nuit, tant que la pluie dans mes viscères me rongera. Tant que mes songes seront voués à l'échec, tant qu'il y aura des flics, que le profit sera providence. Les fers du mal forgeront mes rimes, mon art sera exutoire. Je chanterai ma souffrance.
Ouais, je chanterai ma souffrance.
C'est mon éternelle chanson, je l'ai chantée au mégaphone sur le toit de la Chine comme un pogo derrière le bar dans un concert rue des chasseurs. Mon éternelle chanson, comme une envie de baramine, je l'ai gravée sur les bancs d'école pour passer le temps dans ma cellule et je l'ai vomi au fond du bus. Et quand un porc me baratine, je la lui crache à la gueule. Mon éternelle chanson, car dans mon cœur c'est la famine, allons piller les magasins. Ceci n'est pas la fin.
Ceci n'est pas la fin.
Non, ceci n'est pas la fin.
Ceci n'est pas la fin.
Si, si.
Ceci n'est pas la fin.
Buzz mama.
Ceci n'est pas la fin.
Dialectique peg.
Ceci n'est pas la fin.
La putain de fraction fracassée.
Ceci n'est pas la fin.
Pour les copains qui sont morts.
Ceci n'est pas la fin.
Pour les victimes de la guerre sociale.
Ceci n'est pas la fin.
Der Kampfgate Fighter.
Ceci n'est pas la fin.
Der Kampfgate Fighter.
Ceci n'est pas la fin. Ceci n'est pas la fin.
Non, ceci n'est pas la fin.